Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello à tous, deuxième hors-série live et quatrième de l'année, déjà.
Déjà quatrième.
Après l'US Open, bienvenue à tous pour parler de statistiques et débriefer donc de ce dernier US 2022 assez historique, vous allez le comprendre. Fabrice, comment ça va ?
Ça va plutôt bien, et toi Max ?
Ça va merveilleusement bien, on est en Slovénie, à Porto Rose, sur un WTA 250, on commence à voyager ensemble avec Fab. Parce que Fabrice a rejoint une agence qui s'appelle Edge, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et avant d'aller un petit peu plus loin, sachez qu'on a mis en place un quiz. C'est une nouveauté que Fabrice ne sait pas forcément.
Nouveauté, merci.
Et ce quiz vous permet de connaître votre style de jeu grâce à la stat. Donc vous avez une dizaine de questions à remplir, à renseigner. Et de manière automatique, on vous envoie un débrief en fonction de votre style de jeu pour l'optimiser, optimiser vos forces et réduire la voilure sur vos faiblesses, vos coups faibles, grâce à la stat. Donc voilà, c'est le premier lien en description. Allez y répondre et vous allez voir que ça peut vous aider dans votre jeu. Première chose, Fab, est-ce que tu peux nous dire un mot d'intro sur Edge, l'agence que tu as rejoint et qui explique notre présence ici sur le 250 de Porto Rose.
Enfin, je ne m'y attendais pas à cette question, mais alors...
Mais c'est une petite intro, voilà. Comme ça, improvisée.
Alors, Edge est une agence basée en Suisse, France, États-Unis, qui s'occupe, qui finance donc des filles pour faire le passage de junior au top 100, idéalement au top 100 actif. Et j'ai rejoint cette agence au départ pour de la stats, pure et dure, des bilans des joueuses. Et progressivement, j'ai fusionné quasi avec eux maintenant pour m'occuper toute la partie tennistique. Et l'idée, c'est d'avoir un coach et de mettre autour des experts, donc experts de la stratégie statistique, physique, mentale et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose en devenir. Et à l'intérieur de ce projet, ben, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un peu mon équipe et je t'ai pris.
Oh, c'est
avec
beau,
un, franchement, avec grand plaisir. Qu'on puisse aussi travailler ensemble sur ce projet et avancer dans toutes les étapes des Feed Edge qu'on espère qu'elles vont arriver le plus loin possible et qu'on va pouvoir vous faire vivre aussi à travers les podcasts
les hors-séries.
Et puis aussi tout ce que toi tu fais de ton côté, qu'on puisse suivre la progression de ces filles et qu'on puisse aussi découvrir nos métiers à l'extérieur. Bah, le mien, on commencera à le connaître assez bien sur Tennis Legend, mais les autres experts physiques plus les autres que je vais introduire progressivement, ce serait bien.
Ça va. Merci pour cette intro.
Je ne sais pas si je l'ai bien faite, mais
si,
à froid, voilà ce qui est sorti.
Alors aujourd'hui, on va parler de Tiafoe, Frances Tiafoe d'un point de vue stats. On va parler de Caro Garcia, qui est revenu top 10 à l'issue de cette tournée américaine incroyable, enfin cet été globalement, assez incroyable. Et enfin, qu'est-ce que le troisième point, tu peux nous le dire ?
C'est un débrief statistique de la finale Alcaraz-Rude. Donc plus un débrief de finale par la stat, mais on va aussi un peu rebondir sur leur style de jeu, surtout celui de Carlos Alcaraz.
Carlito. Alors, comme Fab décide toujours de l'ordre...
Ah, t'es dur.
Par qui commence-t-on, Fabrice ? Parce que j'en ai marre de prendre des recales.
Non, mais...
Ça, tu vas pouvoir nous dire plus précis.
On va commencer par Frances Tiafoe, ouais, qui a été quand même une des révélations de l'US Open. Ouais. Franchement, la majorité des gens connaissent Frances Tiafoe depuis déjà des années.
Alors, c'est Frances ou Francis ? Parce que j'ai entendu les commentateurs dire Francis.
Moi, je dirais Frances.
Ah ouais ?
Frances.
Mais c'est écrit Frances, non ?
Ouais, mais prononcé à l'américaine, je crois qu'on est plutôt sur du Francis que du Frances. Mais bref, je suis pas sûr que Frances change son style de jeu, par contre. Ça, au moins, c'est le point positif là-dedans. C'est que c'est le même, en fait, Frances. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Frances ou Frances sont le même joueur. Mais on m'a dit d'ailleurs l'autre jour qu'il avait un frère jumeau.
Oui.
Je ne savais pas, bah peut-être c'est lui Frances. Allez, non, je rigole. Donc on va parler de Frances Tiafoe, ensuite de Caroline Garcia et pour finir de ce débrief de finale.
Très bien.
Donc,
On y va pour Frances, Tiafoe. Okay.
Commençons enfin dans le vif du sujet, enfin parler de stats, putain, parce que reste du temps, je galère, quoi. Donc, Frances Tiafoe, on peut, en termes de style de jeu, c'est ce que j'appelle un cadence offensif. Donc, je vais dégrader. Cadence, ça veut dire qu'il fait plus de points que ses adversaires en coup droit, revers, retour. 15% de plus de points en coup droit, 25 en revers et 40 en retour. Donc, c'est quand même un style de jeu plutôt agressif. Un style de joueur agressif. Donc, je domine mes adversaires en faisant plus de points, autant coup droit que revers. Aussi, la cadence, on avait déjà vu les deux, c'est quand même des joueurs qui sont capables d'évoluer proche de leur ligne de fond de court et prendre la balle montante. Ouais. Après, tu vas me dire, oui, bah, regarde le coup droit de Tiafoe. Tiafoe, c'est plutôt un contreur cadence en revers. Parce qu'on voit ce machin, et en coup droit, ça reste quand même un puncher. Il a besoin d'un peu plus de temps, surtout avec...
C'est une grande préparation.
Ouais, exactement. Mais malgré tout, par le fait qu'il a ce si bon revers et retour, il rentre plus dans la catégorie des cadences que puncher à cause de ça. Donc déjà, ça c'est la partie cadence de Tiafoe et il complète cette partie cadence par de la volée. Ouais. Un jeu offensif qui va vers l'avant.
On l'a vu énormément monter contre Rafa notamment.
Ouais, exactement. Bah, surtout contre des joueurs plus défensifs, il va monter plus que contre des joueurs plus agressifs.
Alors juste, je rebondis, tu dis qu'il gagne 40% de points en plus sur le retour.
Oui.
Alors qu'il joue en cadence. Donc ça veut dire que le mec agresse le retour, c'est-à-dire qu'il est monstrueux en retour pour gagner autant de points.
Non, c'est 40% de points de plus que ses adversaires.
D'accord.
Non, imagine, donc si.
Mais globalement, c'est pas un remiseur en retour, quoi. Enfin, quand il retourne.
Il est plutôt un retourneur agressif.
Ouais.
Ouais, exactement. C'est
monstrueux,
pour. Ouais, bah ça veut dire que c'est son style de jeu de prendre la balle tôt et d'y aller et d'imposer, en fait, imposer un peu sa technique, ses forces. Bah, c'est ça, les joueurs en cadence. C'est vraiment, il impose son coup droit, son revers en jouant assez tôt, assez proche de la ligne.
Ok.
Et après, il a ce côté offensif. Donc voilà, en go. Après, il faut aussi quand même dire une chose par rapport à Frances Tiafoe, c'est qu'il a aussi un côté remise dans son profil. C'est-à-dire, tu peux avoir un cadence offensif qui est ultra agressif. C'est-à-dire, par exemple, un bon exemple de cadence offensif super agressif, c'est Berankis.
Ouais.
Berankis, ça va juste, en tout cas, de ce que je me rappelle de lui quand il était au sommet de sa carrière.
Cardas, c'était quoi le sommet de sa carrière?
Mais genre 50, 60 ATP. Mais c'est-à-dire beaucoup de risques en coup droit, beaucoup de risques en revers, en retour et il monte à la volée. Mais lui, c'était beaucoup de quitte ou double.
Il a arrêté ou quoi?
Non, il n'a pas arrêté, mais peut-être maintenant il est un peu moins bon. Et je ne sais pas, je ne sais même pas si. Je crois qu'il est sorti du top 100. Mais
c'est Cardas, t'embrasse.
Voilà, mais c'est pour ça que je n'étais pas sûr. Je préfère dire avant que maintenant, parce que je n'ai pas les chiffres ces derniers matchs. Donc Ricardas Berankis, c'était un cadence offensif beaucoup plus agressif que Tiafoe. Tiafoe, donc offensif dans le sens, il va faire point-faute assez vite. Tiafoe, il a une partie aussi qu'il est très bon en remise.
Ouais.
Quand on prend ses stats, on voit que dans les rallyes 1-2 frappes, 3-4, 5-8 frappes et plus de 8 frappes, il joue le même nombre de rallyes que la moyenne. Donc c'est un mec qui joue toutes les zones de rallye comme la moyenne de l'ATP. Donc c'est-à-dire, un Berankis va jouer beaucoup plus de rallyes 3-4 que lui. Parce que Berankis, son objectif, c'est premier coup après le service, boum, j'envoie et je monte à la volée souvent.
Ouais.
Alors que Frances, il peut plus construire. Frances, ouais. Il peut plus construire son échange avant d'aller à la volée aussi. Il peut la tenir 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça, c'est un cadence offensif avec encore, si tu veux, une partie remise à l'intérieur de ton profil.
Oui, bien.
Et son point faible, parce que souvent, on prend les points faibles. En plus, je vais rebondir sur son point faible par rapport aussi à sa tournée US. Son point faible, ça reste quand même en stats le service.
D'accord.
Le truc, c'est qu'il sert aussi bien que la moyenne. Donc, il est dans la moyenne. Mais par le fait qu'il a une position un peu agressive en retour, il prend un peu plus d'ace et de service gagnant que la moyenne. Donc quand tu compares son nombre d'ace, service gagnant à celui de ses rivaux, il est dominé dans cette partie. Mais son service est quand même dans la moyenne. Hein. C'est juste cette position en retour agressive qui a des points positifs et négatifs, comme on en a parlé et reparlé. Donc quand tu es proche de ta ligne, tu te prends plus d'ace et de service gagnant, c'est négatif. Par contre, des fois, ça t'aide sur la deuxième balle, parce que cette position agressive te donne un avantage.
Si tu avais Frances en face de toi,
là, ouais.
À ma place. Cette magnifique place. Tu lui dirais quoi pour optimiser son jeu?
Je lui dirais, hi dude.
Ah, tu commences par ça?
How you doing?
Ok.
Non, je lui dirais, je lui dirais que ce que tu as fait. Attends, on y vient en plus. Attends, on y vient parce que là,
oui,
ce qu'il a fait, ouais, en gros, si tu veux, ce qu'il a fait pendant l'US Series, il a optimisé un point de son jeu.
Okay.
Et ça a été le service.
D'accord.
Donc, si tu veux, j'ai pris les stats. De la tournée US de certains de ces matchs, quand même un échantillon assez grand pour avoir une bonne idée, et je les ai comparés au Frances Tiafoe, on va dire un peu d'avant.
Okay.
Tu couperas. Hein.
Le mec me donne du boulot au montage.
Je suis désolé. Mais ça est senti. Donc, voilà. Donc, Francis Tiafoe, pendant la tournée US, quand sa première balle est passée, il a gagné. Il a fait 46% d'essais de service gagnant, alors que sa moyenne est à 33. Donc, si tu veux, lors de la tournée US, il a fait 13% de plus d'essais de service gagnant sur sa première balle. Et c'est ça la plus grande différence. Ça veut dire qu'avant, je t'ai parlé avant, je t'ai fait le profil global de Tiafoe, où le service était un peu une faiblesse. Mmh. Et là, sur l'US Open, le service est devenu une arme, une
sur
force.
Sur l'US Open Series, même avant.
L'US Open, exactement. J'ai pris un échantillon de 2-3 trucs avant et pendant l'US.
C'est quoi ? Tu penses qu'il a fait un passage chez Caro Martin à Rennes ou...
Non. Ce que je pense... Ah non, il n'a pas passé chez Caro Martin, lui. Non, je crois pas. Il devrait d'ailleurs, je lui souhaite ça. Mais là, il sert bien. Je pense que c'est plus... Alors, surtout chez lui, on peut le voir, c'est clairement un mindset qui a changé, je te dis. Sa moyenne générale que j'avais d'avant l'US Series, il passait 61% de première balle. Sur les échantillons que j'ai fait sur l'US Open et un tournoi avant, il est à 50% de première balle. On passe de 61% à 50% de première balle. Donc, on descend le pourcentage de première balle. Pourquoi ? Pour prendre plus de risques, pour augmenter le ratio d'essais de service gagnant. Et ça, c'est une stratégie qui est souvent gagnante.
D'accord.
On en avait aussi parlé ensemble lors des clés d'optimisation. Moi, je prône une descente du pourcentage de premier service pour une augmentation du ratio d'essais de service gagnant. Et là, tu vois, raison de plus, ça, il vient en plus mettre en avant que ça fonctionne. C'est son meilleur US Open et c'est ce qu'il fait sur ce tournoi.
Ouais.
C'est-à-dire, il prend plus de risques pour descendre. Et surtout, on avait aussi vu une règle ensemble. C'était la règle du 20%. J'avais dit qu'il fallait 20% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première balle et deuxième balle. Si tu as moins de 20%, tu devrais prendre plus de risques sur ta première balle. C'était une des théories, une des clés qu'on avait expliquées. Et donc, si tu veux, avant, Tiafoe, il avait 15% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première et deuxième balle. Et là, sur l'US Open, il a eu le 20%. En fait, surtout en plus dans le cas de figure de Tiafoe, c'est un mec qui est bon sur sa deuxième balle, c'est un bon joueur de fond de court.
Mmh.
Donc, meilleur, je veux dire quelque chose de général, meilleur vous êtes sur votre deuxième balle et au fond de court, plus vous devez prendre des risques sur votre première balle.
D'accord.
Mais oui, et ta première balle, t'as un cadeau. T'as un cadeau d'avoir un point gratuit. De toute manière, t'es bon sur ta deuxième balle. Donc, prends-le cet avantage. Et Tiafoe, c'est exactement ce qu'il a fait. En plus, tu vois, cette stratégie de prendre plus de risques sur première balle que sur deuxième, elle marche encore mieux pour les joueurs comme Tiafoe qui sont de toute manière bons sur leur deuxième balle. Donc, tu vois, moi, j'ai envie de te dire, plus tu es bon sur ton deuxième service, c'est-à-dire plus tu es bon au fond de court, plus tu dois prendre des risques sur ta première balle. Parce que finalement, on te donne deux services, c'est une chance de faire mal gratuitement.
Un cadeau.
Un cadeau. Si en plus, derrière, tu es de toute manière bon sur ta deuxième balle, raison de plus. Si par exemple, ce cas de figure pourrait ne pas fonctionner avec quelqu'un qui fait énormément de doubles fautes et qui du coup gagne pas beaucoup de points sur sa deuxième balle. Mais là, c'était pas le cas de figure de Tiafoe. Donc pour lui, le fait d'avoir pris plus de risques sur sa première balle et d'avoir descendu à 50% de première, ça a été une très bonne option, une très bonne option stratégique.
Ok.
Voilà.
Qu'est-ce que tu viendrais lui dire d'autre pour optimiser son jeu ?
Bah non, donc ce que je viendrais lui dire, c'est que je pense que cette prise de risque sur première balle est très bonne.
T'as fait le bon choix, d'accord.
Je pense que c'est un bon choix stratégique. Et le travail paye, je pense. Est-ce qu'il est encore avec Wayne Ferreira? Je crois que oui.
Oui.
Et maintenant, voilà. Donc c'est
un travail. Où est-ce qu'il peut aller encore chercher des précieux pourcentages?
Des précieux pourcentages. Tu sais, après, je pense pas que c'est en optimisation stratégique. C'est en discipline de travail, de vie, de toutes ces choses. C'est là que le talent, il l'a. C'est beaucoup le talent, même top 10, il l'a. Après, est-ce qu'il a la rigueur sur une année complète? Sachant le nombre de voyages, le nombre de déplacements, le nombre de matchs difficiles à jouer. Putain, t'as des mecs qui sont 40e, qui jouent l'acier trempé, 50. Tu dois produire et reproduire sur le tour des performances. Et c'est ça la difficulté.
Ouais.
Après, je pense qu'en termes de stratégie, voilà, de prendre plus de risques sur sa première, ça a fonctionné. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Après, il sait ce qu'il fait sur un terrain. Et aussi, Wayne Ferreira a voulu le rendre plus offensif.
Okay.
Donc, tu vois, plus offensif, c'est-à-dire plus de risques au service, plus de risques en montant la volée. Et je pense que c'est une bonne optimisation pour lui.
Alors, quelques infos sur notre ami Frances, n'est-ce pas ? Il est monté 19e cette semaine, il n'a que 24 ans finalement. J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, le gars.
C'est vrai qu'il n'a que 24 ans.
Ouais, donc il est pro depuis 2015, donc voilà, en effet, c'est sa 7e saison déjà. 1,88, l'animal. Et il vient d'empocher la bagatelle 2, je vous le donne en 1000, 705 000 $.
705 000 ?
Ouais.
Moi, j'imaginais qu'il y avait plus pour une demi-finale de Grand Chelem, je suis un peu déçu.
Et 720 points Ouais, quand même.
Ouais, ouais.
Voilà pour Frances. Et alors, moi, je voudrais juste te partager un truc que j'ai ressenti, c'est dès les premiers tours. Je me souviens plus qui l'a battu au deuxième tour. Non, c'est quand il a battu Schwartzman au troisième tour. Donc, il a eu quand même trois petits sets. J'ai senti une électricité dans le stade et surtout dans son comportement.
Ouais, ouais, bah il...
J'ai senti un truc, en fait. Et je me suis dit, il va nous faire péter un truc, le Francis.
Ah, ouais.
Ça m'a rappelé Robbie Ginepri, l'époque où il avait fait demi-finale.
Okay.
Qui était moins exubérant, moins showman. Mais une année où tu as l'impression que tout s'enclenche, que les planètes sont alignées et que plus personne ne peut l'arrêter. Bon, il s'est avéré que Carlito l'a arrêté en demi-finale. Mais je sais pas, j'ai senti un truc chez Frances, et ce qui fait du bien, toi tu étais à l'US la première semaine, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est de voir un mec qui s'amuse sur le court, qui joue, qui est très sérieux, mais qui a le visage détendu.
Que très sérieux, qu'il le devient.
Oui, qui parce que tu connais de l'intérieur, du coup.
J'avais entendu des échos et tout, comme quoi c'était un petit peu ce manque de discipline faisait qu'il était pas, qu'il pouvait pas optimiser son talent finalement.
Pourquoi, un peu flemmard dans l'approche ou...
Non, mais un peu... Ouais, pas flemmard, mais peut-être un peu, peut-être pas assez focus sur sa carrière, focus sur d'autres choses. Après, tu sais, quand t'es sur le tour, t'as beaucoup de distractions.
Ouais.
T'es rempli de distractions sur le tour, en tant que joueur, et c'est dur. C'est dur d'être focus semaine après semaine. Et je pense que le travail fait avec Ferreira va dans cette direction, et tant mieux pour eux.
C'est là où on se rend compte la discipline de Rafa, de Djoko, qui sont là depuis...
Ils sont dans une bulle, les gars.
15 ans.
Ils sont dans une bulle.
Ils ne bougent pas d'une semelle, quoi.
Ouais. Mais c'est ça, c'est se mettre dans une bulle. Au bout d'un moment, tu dois te protéger. Si quand tu es joueur, tu dois te protéger sur le tour, il y a trop de distractions.
Ouais.
Quand tu es dans le Players Lounge et tout ça, il y a beaucoup de monde. Je veux dire, c'est bien pour nous, les gens de l'extérieur, mais pour les joueurs... Peut-être pas spécialement, il y a trop de bruit.
C'est aussi pour ça que Roger ne va quasiment jamais...
Ils vont moins, évidemment.
Ouais. On a fait le tour sur Francis ?
Yes.
Heureux ?
Heureux.
Soulagé ?
Soulagé, un tiers de fait.
Ok, donc on enchaîne avec Caro Garcia, qui a fait un été absolument fou. Je crois qu'elle est à 31 victoires, 32, je ne sais plus. Bref, depuis qu'on s'est rencontrés à Lausanne, Caro est sur un nuage, il faut le dire.
C'est deux putains. Putain, mais en fait.
Eh oui.
T'es tellement bon.
Et voilà.
T'es monstrueux, mec.
Allez voir cette courte interview si vous ne l'avez pas vue avec Caro. C'était très sympa. Qui nous explique comment elle s'était remise la tête à l'endroit avant d'enchaîner cette série de victoires absolument incroyable. Donc, cette semaine, elle est 10e pile.
Allez.
Pour rappel, elle a été 4e au meilleur en 2018, quand même. Elle a gagné 10 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Elle a 28 ans, 1m77. Et alors, sur 7 US Open, Caro en demi-finale a gagné exactement comme Frances, à savoir 705 000 dollars, 780 points. Elle était 17e, donc elle a gagné 7 places. Voilà. Allez. Voilà pour les faits.
Bon, surtout aussi, il faut dire qu'elle avait gagné Cincinnati avant.
Ouais,
des qualifs. Donc, c'est les deux tournois ensemble. Je crois même qu'elle a gagné plus de points à...
930, ouais.
Ouais, elle a gagné plus de points à Cincinnati qu'à l'US, en fait.
Ouais.
Mais l'enchaînement de deux superbes tournois pareils la propulse dans le top 10, alors qu'elle était qualif à Cincinnati. Hein.
Ce qui est génial, c'est qu'elle ait répondu présente et qu'elle ait réussi à assumer jusqu'en demi. Bon, ouais, même si elle perd contre...
D'abord,
d'avoir mis des pilules tour après tour sur les premiers, sur ses premiers matchs, c'est quand même costaud. Bien joué, Caro, si tu nous écoutes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un point de vue stats ?
D'un point de vue stats, je peux vous dire en gros qu'est-ce qui a bien fonctionné pour elle lors de cette tournée US, quoi.
Ouais.
Donc en 1, ce qui a fonctionné le mieux pour elle, c'est son coup droit. Donc elle a fait en moyenne deux fois plus de points en coup droit que ses adversaires.
Okay.
Donc, c'était vraiment un coup droit ultra dominant. Donc, quand je dis dominant, c'est qu'en termes de stats, ça va dans les deux sens. C'est que, un, elle fait plus de points que la moyenne, mais par le fait d'être autant agressive, elle donne moins d'opportunités à ses adversaires de faire elle-même des points en coup droit.
Ouais.
Donc, si tu veux, elle prend un double avantage en termes du nombre de points. Moi, j'en fais plus que la moyenne, mais vu que finalement, je fais un peu les points et les fautes, je donne moins d'occasions à mes adversaires de faire des points en coup droit. C'est une stratégie qui fonctionne. Quand t'es bien.
Ouais, quand t'as de la confiance
ouais,
comme elle,
exactement.
Ces derniers temps.
C'est des stratégies qui fonctionnent très bien alors quand t'es en plein possession de tes moyens.
Ouais.
Parce que ce genre de stratégie, quand ça va pas comme tu veux, ça résulte dans beaucoup de fautes directes.
Ouais.
Et voilà, donc c'est aussi. D'ailleurs, c'est un petit peu la manière dont Caroline perdait un peu ses matchs Attends, moi je l'ai vu, elle a perdu 2-3 fois contre certaines de mes clientes. Et ben, il y avait des fautes directes, quoi. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes directes.
Ouais.
C'était pas mes clientes, mais mes clientes, les joueuses avec qui je travaillais, qui allaient gagner les matchs par leurs propres actions, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc voilà, c'est le coup droit. En un, c'est le coup droit.
Juste avant d'aller plus loin, ouais. Il paraîtrait que physiquement, elle est beaucoup plus. Je sais pas, qu'elle s'est remise un peu dans le droit chemin, plus affûtée. Tu l'as vu ça ou pas forcément?
Je pense que oui. Non, je ne l'ai pas vu parce que pour moi, elle est toujours affûtée comme ça. Quand je la croise, hein, je te dis pas que je la croise déjà tout le temps. Mais évidemment que je pense que physiquement. Tu sais, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait ce qui se passe en ce moment. La condition physique, l'entraîneur. Est-ce que c'est physio, condition physique, c'est la même personne?
Ouais.
Donc je pense qu'ils ont un trio.
Qui bien.
Bah ouais, en règle générale, on peut pas. Non, franchement, on peut pas dire. Ah non, le trio, il fonctionne pas. Elle a gagné 35 matchs, c'est qu'il y a un truc. Et puis après,
il y a une alchimie, quoi.
Oui, il y a une alchimie, exactement. Puis après, il y a la confiance qui vient mettre la cerise sur le gâteau. La confiance, la finalité, c'est. Tu amènes un groupe qui se sent bien ensemble, qui amène des victoires, qui engrange de la confiance. Et après, ça devient des trucs comme l'histoire de Caroline. Après, des histoires comme ça en WTA, sans être méchant, en étant un petit peu sceptique, il y en a beaucoup.
Que ça peut être un feu de paille, tu penses?
J'ai envie de te dire oui et non. Oui, ça peut clairement être un feu de paille, parce que malgré tout, te rappelles-toi aussi quand elle est montée 3 mondiales, elle s'est envoyée 2 Master 1000, je crois, en fin d'année pour participer au Master. Ça a été super vite. Et une année et demie après, elle n'était plus dans le top 10, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc, feu de paille, quand on regarde l'US Open 2021, finale Raducanu-Fernandez, tu sais, À part Swiatek qui tient un peu la maison de la WTA, tout le reste, cette année, on a eu Kontaveit numéro 2 mondial, Badoza numéro 2 mondial, Krejcikova numéro 2 mondial. Putain, mec, elle venait, franchement, pour le grand public, elle venait de nulle part.
Ouais.
Et c'est des joueuses qui avaient un classement moyen de. Même Krejcikova, tu sais, j'ai juste une anecdote par rapport à elle. En 2020, je suis à l'Open d'Australie, ouais, 2020, et je me rappelle, j'étais avec un coach.
Okay, surfing.
Ouais.
Tu raconteras un jour.
Peut-être pas. Mais en 2020, puis j'étais avec un coach qui la connaissait. Et puis je me rappelle cette scène près de l'ascenseur où il lui dit: putain, félicitations, tu la mérites. Tu t'es qualifié pour le main draw. Tu vois le truc?
Ouais.
Félicitations. Je me rappelle. Puis elle était super contente. Je crois que c'était une de ses premières fois qu'elle se qualifiait pour un main draw de Grand Chelem. 2020.
Ouais, il y a 2 ans.
2020. Ouais, je suis sûr, c'est 2020, exactement. Et puis derrière, elle se fait Roland l'année d'après.
Incroyable.
Donc,
ce qui est assez représentatif du circuit WTA.
Elle est 30e mondiale, mais non, je crois, si je ne me trompe pas, 25-30. Donc, en ce moment, on est dans une période en WTA d'instabilité assez forte quand même. On peut pas.
Clairement.
T'as qu'à regarder, il y a que des. Bon, et maintenant, il y a Swiatek. Mais t'enlèves Swiatek, ça part dans tous les sens, quoi.
Le coup droit de carreau.
Ok, je reviens sur le coup droit de carreau. C'était une jolie parenthèse. Mais donc le coup droit de carreau, et surtout, si tu veux, 40% des points en coup droit de carreau sont faits sur le premier coup après son service. Donc on est vraiment...
One-two punch.
Du service plus 1, on l'appelle. Ouais. C'est toujours un peu le service plus 1 qui vient et qui revient et qui revient et qui revient encore. Mais c'est clairement le tennis efficacité en ce moment, c'est... Je sers fort et j'ai une occasion, j'envoie en coup droit.
Ouais.
C'est, tu vois, en plus, marrant, sur cette tournée US, Caroline ne fait pas plus de points en revers que ses adversaires.
D'accord.
Ce qui veut dire
que non, c'est le coup droit qui...
Voilà, avant, qui est au-dessus de tout, quoi. Ouais, ça veut dire qu'on est aussi dans des philosophies de décaler plus, d'attaquer en coup droit et moins en revers. Alors qu'avant, Caro l'a attaqué des deux côtés. Mais là, sur cette tournée, ça n'a pas été le cas. Après, un autre point... Non, soit c'est bon, c'est ça, c'est les deux points par rapport au coup droit. Maintenant, on prend le deuxième point, c'est points à la volée.
Ouais.
Donc, elle a fait 4 fois plus de points à la volée que ses adversaires. Quand elle est montée au filet, elle a gagné 80% des points. Et ceci représente 16% de la totalité des points gagnés.
D'accord.
Donc, sur tous les points qu'elle a gagnés, 16% ont été gagnés à la volée. Et, par contre, quand elle est montée, elle a gagné 80%. Donc, c'est des stats par rapport à la WTA qui sont bien au-dessus de la moyenne. Donc là, on peut déjà connecter les deux. Punch, offensif. On est puncher avec le coup droit, on fait 2 fois plus de points que les adversaires en coup droit. Et on suit souvent ce coup droit à la volée, en tout cas quand il y a une opportunité. Et on gagne 80%. Donc quand tu gagnes 80% des points, regarde, le truc c'est comme ça. C'est en règle générale, la stats de la volée, c'est la suivante. C'est moins je monte à la volée, plus je gagne de points. Tu comprends ça?
Ouais.
C'est un Rafa, c'est quelqu'un qui montait moins que la moyenne, mais chaque fois qu'il
mais
montait.
Ce qui vient, c'est pour la poser.
Exactement, c'est pour terminer. Ouais. Et après, donc le contraire, plus je monte deux fois à la volée, moins je gagne deux points. Prends un serveur volleyeur. Il ne peut pas gagner plus de points à la volée, il est toujours à la volée. Ouais. Mais malgré tout, c'était son style de jeu et c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Donc, Caro, on est dans. Caroline, on est dans. Je gagne plus de points que la moyenne quand je monte, et je monte plus que la moyenne. Donc, ça veut dire. Et je gagne plus de points au coup droit. Donc, quand tu connectes tout ça, c'est-à-dire la qualité de ces approches de coup droit ont fait la différence aussi. C'est-à-dire que. Tout a été mis en place pour bam, charger en coup droit, y aller, suivre vers l'avant. Et puis elle le dit elle-même, c'est, elle pratique un jeu agressif, offensif.
Il y a justement cette sortie de Mats Wilander qui dit le jour où Caro sera vraiment très forte, c'est le jour où elle aura un plan B. Mmh. Et Caro Garcia lui a répondu, avec tout le respect que je dois à Mats et sa carrière, j'ai un plan A et le jour où je serai vraiment meilleur, c'est quand mon plan A sera encore plus solide.
Ah ouais. Ouais.
T'en penses quoi, toi?
Ouais, je pense qu'elle a. Et puis elle l'a pas dit aussi que
quand elle a un plan B, ou un plan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ah, monstrueux.
Ouais, ouais, elle a aussi dit que quand elle essayait d'avoir un plan B plus défensif, ça, c'était pire encore pour elle, c'était pas un truc comme ça?
J'ai essayé pendant des mois d'avoir un plan B, ouais. et j'ai perdu pied, quoi.
Ouais. Après, en toute honnêteté, tu peux avoir un point A et B qui sont les deux agressifs, tu vois?
Un plan A et un plan B
qui sont tous deux agressifs. Juste dire peut-être que le plan A, je monte sur le coup droit, le plan B, je monte sur le revers. Non, mais tu vois, je veux dire, plan A, plan B, ça ne veut pas dire plan A, je suis ultra agressif, plan B, je suis ultra défensif. C'est de la stratégie. Un plan A, ça peut être je sers plus sur le coup droit, le plan B, c'est je sers plus sur le revers, mais je suis la même personne. Donc déjà, plan A, plan B, il faut définir ce que c'est. Mais c'est vrai que dans la conscience commune, c'est plan B plus défensif ou plus agressif, le contraire, si tu es un joueur défensif de base. Donc après, honnêtement, je pense que chez elle, je pense que aussi, surtout pour les joueurs agressifs, la confiance est super importante. Se sentir bien de nouveau avec son team et tout ça, voilà, c'est ce qui fait sa force. Mais c'est clair que si elle n'arrive pas à imposer ses forces, bah, elle est mal. Ce n'est pas une joueuse qui aime défendre et ce n'est pas une joueuse qui a été habituée à défendre.
Ouais.
C'est-à-dire, quand toute ta vie, tu as été agressif, on te demande, ouais, tu dois défendre, c'est facilement dit. C'est comme un joueur qui a été défensif toute sa vie, tu lui dis, mais putain, t'as qu'à envoyer des fracs en coup droit dans son mindset, c'est pas aussi simple. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que l'entraîneur Bertrand Perret a aussi réussi à trouver avec elle.
Tu connais un peu Bertrand ?
Oui, d'ailleurs, on a une bonne relation, on s'entend bien, quoi.
Vous avez bossé ensemble ?
Non, oui, on n'a pas bossé ensemble. On a fait une fois un essai avec une autre joueuse qui n'est pas Caroline Garcia, lors de l'Open d'Australie 2020, d'ailleurs, où il était avec quelqu'un d'autre. Et puis, on avait bien matché par rapport à. Il avait bien apprécié ce que je faisais. Après, c'est comme ça que ça parle, les matchs. Moi, en 2020, quiconque était à peine intéressé par mon travail, je matchais automatiquement avec lui, tu vois.
Ouais.
J'étais dans une minorité.
Ouais. Alors que maintenant.
Alors que maintenant,
on n'est pas à
2% de gens qui aiment la stat. On est à 20.
Allez,
fois 10. Allez, c'est bon ça. Donc, ça, c'est le deuxième point fort de Caroline, la volée. Et le troisième, c'est l'agressivité en retour.
Okay.
Donc, elle fait en moyenne aussi deux fois plus de points avec son retour que ses adversaires. Ben, ça, on le sait. C'est une position en retour ultra agressive.
Ouais, j'ai vu beaucoup de déchets aussi en retour.
Ouais.
Mais
c'est du all-in, tu vois.
Ouais.
On est dans une stratégie, je ne veux pas que mon adversaire respire. Une fois de plus, c'est la même chose. C'est une stratégie où du moment que tu es en confiance...
Ouais.
C'est vraiment, franchement, t'as que des avantages stratégiques parce que l'autre ne joue jamais. Dès qu'il y a enfin un retour à jouer, l'adversaire peut un petit peu paniquer. Tu vois, parce que là, point faute, t'étais pris dans un faux rythme. Par contre, dans cette stratégie, quand t'es pas en confiance, même à voir de l'extérieur, c'est horrible. Non, mais quand une joueuse ultra agressive n'est pas en confiance, elle t'allume partout. On dit dans l'expression, elle t'allume les bâches, quoi.
Ouais.
Mais moi, c'est marrant parce que j'ai vu un match. D'ailleurs, je crois en plus que c'était Garcia contre Knapp. C'était un match sur terre battue. Les deux avaient la même stratégie
là, ça devait arroser.
D'allumer, de frappe est fort en retour et les deux, je pense, ce jour ne la sentaient pas. Alors, peut-être je me trompe complètement, mais de l'extérieur, c'est ce que j'ai vu. Mais je regardais ce match, je me dis, mais nom de Dieu, mais il n'y avait que des fautes en retour sur le premier coup de raquette, de temps en temps un point. Et puis l'autre faisait, faisait le même schéma de jeu. Je dis, mais quelle horreur. Je me disais, mais quelqu'un qui vient voir du tennis et qui tombe sur ce match, bah, je suis désolé de le dire, ça ne donne pas une belle image du tennis. Mais bref.
Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est le jour où il y a un petit peu moins de confiance, comment elle va faire ?
Bah, ça va être juste moins bon, c'est clair. Mais bon, je vais te dire, dans n'importe quel style de jeu, je travaille avec une autre joueuse qui est assez défensive. Bah, quand elle n'a pas confiance, elle te fait un passing de moins. Je veux dire, elle joue peut-être 30, 40, 1 mètre plus court. Elle reste un style de jeu défensif, mais tu sais que ou un joueur défensif, quand il n'a pas confiance, peut-être il ira trois fois de moins dans un match à la volée. C'est que des tout petits
en
différences.
En gros, là, son niveau de jeu qui est assez élevé devrait. Elle peut perdre 10-15%, mais si elle arrive à stabiliser ce qu'elle a aujourd'hui, elle jouera top 20 tous les jours. C'est ce que tu essaies de dire.
Si elle, je pense qu'elle est déjà en train de stabiliser. Après, il faut voir sur la durée, hein, c'est clair. Hein. Mais le phénomène de confiance influence tout le monde, tous les styles de jeu. Le serveur volleyeur, Crécy, ou s'il a confiance, Crécy, il tombe encore plus sur sa deuxième balle que s'il n'a pas confiance.
Ouais.
Ou s'il n'a pas confiance, il fait trois fois plus de... Donc, la confiance, c'est la confiance. Mais la confiance, tu l'as créée dans une équipe stable et une stabilité à l'entraînement. Et je pense c'est ce qu'elle a vraiment mis en place. Donc, par contre, un dernier truc que je veux dire par rapport au retour, c'est que cette stratégie d'être super agressive en retour est une stratégie qui fonctionne mieux en retour de deuxième balle que de première. Alors, retour de deuxième balle sur l'échantillon que j'ai d'elle, qui est un grand échantillon d'ailleurs.
Ouais.
Elle a gagné 60% des points. 60% c'est haut, c'est au-dessus de la moyenne. Mais en pourcentage de points gagnés en retour de première, elle est dans la moyenne. Pourquoi elle est dans la moyenne ? Parce qu'elle prend plus d'essais de service gagnant par une position agressive. Donc elle compense qu'elle retourne bien quand elle est sur la balle, mais elle est moins souvent sur la balle que la moyenne. Et du coup, dans cette statistique, ce qui se passe, c'est qu'au terme du nombre d'essais de service gagnant, ses adversaires en ont fait plus qu'elle.
Parce qu'elle est à une position.
Ouais, exactement. Alors qu'elle a bien servi pendant toute la tournée. Par contre, le service lui a procuré plus de balles courtes, qui lui a permis d'attaquer plus souvent, et ça a été son point fort.
J'ai l'impression, en parlant de Francis et en parlant de Tiafoe et Garcia, tu nous parles de deux personnes qui sont proches de leur ligne, et dans les clés d'optimisation, tu nous recommandais peut-être d'être un peu plus en retrait.
Ouais.
D'être un peu plus en retrait pour se laisser respirer, avoir plus de chances d'être meilleur en retour. D'ailleurs, ce que fait Daniil Medvedev.
Ouais.
Est-ce que, juste ma question, c'est est-ce qu'il n'y a que Daniil finalement qui se recule tant que ça au retour, au plus haut niveau, vraiment dans les.
Dominic Thiem, Nadal le font.
Ok.
Félix alterne ses positions avec une position agressive et une position aussi défensive.
Ouais.
Donc t'en as.
Ouais.
Donc Benoît Paire, en retour de première balle, de souvent ce que j'ai vu, avait une position défensive.
Ok.
Donc c'est quelque chose de...
Là c'est courant.
De plus en plus courant.
Ok, good.
Par contre, on sait que la position agressive en retour de première balle donne en moyenne des résultats moins bons.
Ouais.
C'est comme ça. Ça c'est sur une étude faite de 300 000 points sur 150 joueurs. Après.
Plus d'impact, de points gagnés, pression mise sur l'adversaire.
Mais en retour de deuxième balle, cette position agressive peut très bien fonctionner. Donc je me répète, c'est juste en retour de première balle.
Ok. Got it. What else about Caro?
Mais je pense que on est bien par rapport à Caroline.
T'as fait point négatif ?
Il n'y en a pas. Bah, sur la tournée US, elle a perdu un match. Il n'y a pas de point négatif.
Deux ?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Et puis s'il y en a, j'en parlerai pas. Non, mais il n'y en a pas.
Imagine, je suis Caro, qu'est-ce que tu lui dis pour la faire bosser avec toi ? Pour lui apporter ce petit plus.
Qu'est-ce que je lui dis ?
Ouais.
J'ai envie de te dire que je lui dis rien, quoi. Je lui dis non.
Si tu devais lui faire une préparation de match, qu'est-ce que tu essaies
Mais je crois qu'elle est complètement au clair déjà, avec ce qu'elle doit faire.
Ouais.
Je pense pas spécialement que... Tout dépend. Je sais pas si la stats peut vraiment lui amener quelque chose maintenant. Mais ça amène toujours quelque chose. Ça amène des repères.
Ça amène des infos sur l'adversaire.
Ça amène des infos sur l'adversaire qu'après, ils doivent utiliser judicieusement.
Ouais. Mais est-ce que tu fais des préparations de match sur les adversaires?
Moi, je te dis honnêtement, voilà comment je vais vendre la stats. Je vais pas la vendre en termes de ça va te faire gagner en prépa de match, en débrief. C'est juste que si tu es dans un mindset de développement, de rester dans le top 10 et de gagner des grands chelems, je pense que tu dois impérativement travailler avec la stats. Impérativement.
Parce que
Parce qu'on analyse tout. Quand tu veux gagner un grand chelem, quand tu veux être top 10 sur 2, 3, 4, 10 ans, tous les détails comptent. C'est-à-dire que tu as un état d'esprit d'être top 10, d'être un champion. Et ça, dans ce cas, tous les détails comptent, dont la stats. Ouais. Donc là, j'argumenterais par rapport à ça sans dire « Ouais, avec ma prépa de match, si, ou avec mon billet. » Non, c'est englobé dans un état d'esprit, mais qui englobe plus que la stats, tu vois.
Ouais.
Donc si, il y a ce désir. D'aller marquer l'histoire du tennis, c'est évident que la stats doit faire partie du projet. Donc c'est ça que je pourrais vendre.
Dernière partie sur la finale homme de l'US Open 2022. Et juste après, je vous donnerai quelques stats bien senties de Constance de Je C'était Mat qui est passé sur le podcast pour conclure cet échange. Est-ce que ça te va ?
Remets tes chaussures, s'il te plaît. On tourne. Oui, tout me va, Max.
Allez, c'est parti.
Alors, maintenant, on va faire le débrief de la finale de l'US Open entre Alcaraz et Casper Ruud.
Et n'oubliez pas le quiz pour connaître votre style de jeu grâce à la stat. Je t'écoute.
Belle parenthèse.
Voilà.
Alors, la première clé du match, c'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses être la première clé du match ? Service, retour, coup droit, revers ou volée ?
Et en plus, première clé du match.
Comment il a fait la différence ? C'est toujours ça.
Spontanément, oui, j'imagine le coup droit de Carlito.
C'est la foudre. Oui, mais quand on sait que Casper Ruud a aussi un des meilleurs coups droits au monde, il se sent un petit peu effacé sur ce point. Donc, non, la première clé du match, ça a été le service.
Ok.
Donc, c'est marrant, tu te rappelles, quand on avait parlé du profil d'Alcaraz, c'était comme un des points faibles. Et ça montre deux choses. Ça montre déjà une chose, qu'il est en train de travailler ce coup.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a été un peu plus performant que des stats que j'avais de lui avant.
Avec Francis, ils sont allés tous les deux
à
Rennes chez Caro Martin.
Je ne suis pas sûr qu'il ait été là-bas. Mais je lui conseillerais d'ailleurs de nouveau, mais je fais une bonne pub pour Caroline Martin.
Ouais, si tu nous écoutes, Caro.
Alors, quand il a passé sa première balle lors de cette finale, 33% du temps, ça a été un ace ou un service gagnant. 33. C'est dans la moyenne.
Okay.
Mais peut-être lui, il était. Tu te rappelles, je crois que il quand on avait fait, il était à 25.
Okay.
Donc on a plus 8, il me semble. Là, ça, je te dis de tête. Mais par contre, il a fait 40% des 7 services gagnants en plus que Casper Ruud. Et ceci représente 65% de l'avantage qu'il a pris sur cette finale. Mais donc, un, lui, il sert dans la moyenne. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Position en retour semi-défensive qui fait descendre l'efficacité au service de Casper Ruud.
Là où un point important, tu m'as dit Casper a considérablement fait évoluer son jeu sur dur grâce au service.
Aussi. Mais tu ne retrouverais pas Casper Ruud en finale de l'US s'il n'avait pas fait avancer son service. C'est déjà une des choses. Mais là, la position en retour d'Alcaraz, un peu semi-défensif, pas défensive à la Medvedev, mais pas non plus sur la ligne de la Djokovic, si tu veux, a fait baisser son efficacité. Et lui, donc il a une efficacité dans la moyenne, l'autre il te le fait descendre, et au final c'est avec ce coup qui te prend le plus grand avantage dans ce match. Le service est marrant, alors qu'on aurait dit c'est en coup droit qu'il va le dominer.
Ouais.
Et non, il l'a dominé au service. Donc, et puis pour avoir un chiffre, il a gagné 35% de ses points en retour de première balle, qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc, voilà. C'est, comme je t'ai dit, position défensive, ça fait descendre l'efficacité au service d'autre, ça fait monter ton pourcentage de points gagnés en retour de première balle.
Alors juste en mettant la stat entre parenthèses une seconde, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième ? Est-ce que tu as senti émotionnellement, un petit vacillement ? Est-ce qu'il y a Casper qui a repris le lead sur autre chose ? Comment tu vois
Parce
que j'ai l'impression qu'il avait déjà l'ascendant fin du premier, et comme à Roland, ça allait donner une victoire sans appel en 3-7 quoi.
C'est une fois de plus, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gars.
Une défaite plutôt pour Ruud.
C'est des Formule 1. Il peut à tout moment, il peut y avoir un tout petit réglage. Moi, je te parle de moyenne. Je peux pas. Après, j'ai pas fait la stat 7 par 7. Je l'ai pas sorti comme ça. Donc, je peux pas te dire plus que ça. Mais des fois, c'est des tout petits détails. Hein.
Ouais.
Après, il faudrait prendre dans tous les détails. Là, tu devrais aller plus en détail. Est-ce qu'il a pu servir une certaine zone ? Est-ce qu'il a pu faire ça ? Mais ça, là, je vais pas. Désolé. Je prends les grandes lignes. Hein. Deuxième clé du match, la volée. Donc, Carlos a gagné 60% de points en plus que Ruud. 21 contre 13.
Ouais.
Il a gagné 21 points par sa volée purement, et 13 pour Ruud, et ça fait 30% de la différence. Donc 65% le service, 30% la volée. Après, 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. 28%. Donc, en gros, j'allais dire autre chose, mais je n'ai pas le chiffre. Donc, 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. C'est bien au-dessus de la moyenne. 14% par des services volés.
Ok.
Ou pris tout de suite la balle en vol avec un coup droit lifté.
Ouais.
7% en montée en deux temps. Service, une balle, je monte. Et 7% dans les rallyes.
Tu dis c'est largement au-dessus de la moyenne. Habituellement, c'est combien?
La moyenne, elle est à peu près à 12.
Ah oui, en effet. Ouais.
On est deux fois plus que la moyenne. Ouais. Donc ça, tu vois, donc il va battre Alcaraz avec son service, avec sa volée. On avait vu quand on l'avait profilé qu'il gagnait en faisant plus de points en coup droit, revers et volée. Donc ouais. Il avait cette facette volée. Mais là, contre un joueur des fois un petit peu défensif, rude, qui fait tourner la balle, il l'a plus exploité, ce côté stratégique de plus monter au filet. Et 28% donc, du coup, de ses points sont gagnés à la volée. Et la dernière clé, c'est le coup droit, mais que à 5%. Il a fait plus de points, il a fait 40%, malgré tout, il a fait 40% de plus de points que Ruud avec son coup droit, mais il a fait aussi 30% de plus de fautes. Donc l'un dans l'autre, au final, il a pris un avantage que de 5% grâce à son coup droit.
D'accord, ouais, donc voilà l'idée reçue de base. Mm-hmm. Et maintenant, démontée.
Ouais, et de nouveau, où c'est qu'il a pris le plus gros avantage dans ce match en coup droit? C'est sur son premier coup droit après son service. Donc on est de nouveau sur du service plus 1 qu'on voit avec Caroline.
Ouais.
Avec Tiafoe, on ne l'a pas vu spécialement, mais on a vu le service et qu'on le voit là de nouveau avec Alcaraz pour gagner cette finale. Et puis service plus 1 souvent suivi à la volée. Il faut savoir aussi qu'il a gagné en tout, attends, j'avais le chiffre, non, je ne l'ai plus. En fait, il a gagné 74% de ses points sur sa première balle et c'est aussi au-dessus de la moyenne. Donc, et ça, c'est grâce à son côté offensif et grâce à son côté punch. Donc, si vous, tout s'emboîte. Je sers mieux. Je suis agressif sur mon premier coup de raquette en coup droit. Je suis souvent ce coup droit à la volée. On est typiquement dans, une fois de plus, le jeu moderne, service plus 1, plus volée.
Qu'est-ce que tu dirais à Casper en débrief de match? T'aurais dû faire quoi différemment?
Ah, tu me la poses chaque fois ces questions, mais j'arrive pas à y répondre. C'est que, tu sais que, un match, c'est un match. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment? De toute manière, il avait dû sûrement apprendre de sa défaite à Miami contre lui en essayant d'autres choses. Casper, que tu le veuilles ou non, son coup droit sur dur restera plus en coup droit défensif qu'agressif. Donc, il se joue un petit peu avec les mêmes armes, avec un service dans la moyenne, avec un coup droit au-dessus de la moyenne, mais avec un Alcaraz plus agressif que lui. Et après, Casper a aussi essayé de monter plus à la volée. Je crois qu'il a fait son match. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je crois que les deux ont fait un match et après, un était juste meilleur que l'autre. Après, peut-être émotionnellement, il s'est passé des choses pendant le match et peut-être le coach peut faire un débrief émotionnel. De là, à ce moment clé, t'as pas pris ta chance. Mais voilà, ça, je peux pas, c'est pas mon job. Moi, je te dis dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Donc, la clé numéro 1, le service à 65%, ensuite la volée à 30% et finalement le coup droit à 5%. C'est comme ça qu'il a fait la différence. Et on est dans un jeu moderne, une fois de plus, service plus 1. Mais bon, après, une fois de plus, c'est facilement dit le jeu moderne. Mais quand t'es en confiance, tu le fais aussi plus souvent. Le jeu moderne, t'es agressif très vite dans l'échange quand t'es pas en confiance. Donc, on a aussi fait cette parenthèse sur la confiance qui est. Mais bon, en termes de confiance, Alcaraz, ça a été une trajectoire assez difficile dans ce US Open. Il a sauvé même, je crois, balle de match contre Sinner. Hein.
Absolument, ouais.
Donc, il a fait des matchs en 5-7, il a été recherché, il a été puisé des ressources. Et c'est marrant ce que Ferrero a dit, je crois aussi après, il a encore tellement de moyens de s'améliorer. Et moi, j'ai envie de te dire oui, il a encore tellement. Je trouve, moi, de mon point de vue, je trouve moins bon Alcaraz, de ce que j'ai vu, que Djoko, Nadal, Federer quand ils étaient à leur top. Et c'est peut-être même Murray. Je trouve moins bon. Pour moi, le niveau global du top 10 a baissé depuis que ces trois sont plus à leur sommet. Peut-être Djokovic l'est encore, hein. Mais Nadal, c'est boitillant quand même, Nadal.
Tout
tire sur un fil, lui.
En off, tu me disais d'ailleurs la chance incroyable qu'il a d'arriver à ce moment-là.
Ouais.
Parce que s'il était arrivé à l'apogée des trois autres.
Exactement. Exactement. Ça, c'est mon point de vue. Ça restera un point de vue personnel. Si Alcaraz arrive au milieu de carrière des 3-4 autres, avec Murray aussi, du Big Four, et avec un Wawrinka, un Tsonga et tous ces mecs derrière, il est dans le top 10. Mais il n'est pas un mondial. Pour moi, le niveau actuel d'Alcaraz n'est pas aussi bon encore que le niveau du top 4 qu'on a connu. Mais par le fait qu'eux baissent, il arrive au timing parfait, 19 ans avec le niveau de jeu et surtout une marge de progression. Par contre, si tu me poses la question, est-ce qu'il va arriver au niveau de ces mecs? J'ai envie de te dire oui. Donc il va, et s'il est seul, Parce que tu imagines, les gars, ils étaient 3 à 4 à ce niveau. Murray, je le mets entre deux, mais il était quand même là. Il les a tous cirés aussi.
Je crois qu'il sera moins poussé à progresser.
Le truc, c'est que pour moi, la génération Medvedev, Zverev, Tsitsipas est moins bonne que le top 4 qu'on a connu.
Ouais.
Et lui, peut-être, va arriver avec ce niveau progressivement top 4. Donc si les autres ne se mettent pas à niveau,
il va à l'époque.
Roddick à l'époque.
La Roddick à un moment donné gagnait tout avant que Federer.
Ouais, mais ça a duré 6 mois jusqu'à l'US Open, puis après il y avait Federer. Elle a été petite comme ça, son apogée. Mais...
Je me souviens à un moment, mais il était injouable, il s'est avec des tours. Ouais. Mais personne n'y arrivait.
Mais par contre, tu vois, Alcaraz, en étant maintenant numéro 1 mondial, il peut peut-être tirer les autres. Federer, il l'a toujours dit, et Nadal m'a tiré vers le haut, et puis Nadal aussi. Donc maintenant que tu as un mec qui est là en haut, ça va obligatoirement tirer Medvedev, tirer Zverev, ça va tous les tirer vers le haut. Mmh. Donc s'ils montent encore d'un palier, imagine-toi, ça va les faire monter, ça risque de les faire monter d'un palier où, s'ils n'arrivent pas à prendre le train en marche, il va vraiment dominer le tennis mondial.
Bon, c'est un peu comme moi avec la stat, tu me tires vers le haut.
Je te tire vers le haut.
Magnifique.
Mais tu refuses par moment.
Ou je baille.
Tu bailles. Ouais, c'est ça. Mais par moment, tu bailles.
J'ai quelques stats relatives à cette US Open. Tu ne regardes pas parce que je vais devoir te mettre à contribution un peu pour voir si tu suis.
Allez.
Cette US Open qui est historique,
je vous l'ai dit. J'espère d'être bon dans ce genre de stats, mais vas-y.
Je vous l'ai dit en intro de ce podcast, de ce hors-série, puisque notre ami Carlito gagne son premier grand chelem.
Ah, ça je savais.
Et devient numéro 1 mondial. Alors la première, je vous rappelle que c'est Jeux 7 et Maths Constance qui est passé sur le podcast. Allez voir son compte Twitter qui est aux petits oignons. Voilà. Donc, le nombre de participations en grand chelem avant d'avoir gagné leur premier grand chelem. Alcaraz en était à 8 participations en grand chelem et a gagné son premier titre. Au même titre que Sampras a gagné son premier titre, c'est toi qui baille. Tu relâches. Sampras a gagné aussi son premier grand chelem après 8 participations. À ton avis,
Nadal.
Nadal a gagné son premier grand chelem après 6 participations.
Putain.
À ton avis, qui est le premier joueur à avoir gagné son premier grand chelem avec le moins de participations au grand chelem?
J'ai envie de te dire Michael Chang, parce qu'il l'a gagné à 17 ans.
Ouais, mais...
Leighton Hewitt.
J'ai pas la...
Ah non, Hewitt, je suis pas sûr.
Entre les deux, je sais pas, j'ai noté...
Ah non, c'était Becker.
Alors, je sais qu'ils ont deux à égalité, mais j'en ai
pas. Je t'ai enlevé une fourmi rouge.
Appreciate. Il y en a un que j'ai noté, je crois qu'ils étaient deux à égalité, mais c'est Quirten.
Ok.
Il a gagné à 3 participations, son premier grand chelem.
Ah ouais, putain. Et puis d'ailleurs, Quirten, le premier tournoi qu'il gagne sa vie, c'est un grand chelem.
Ben oui.
Mais je pense qu'une Raducanu, c'était pas son deuxième grand chelem.
Ah, mais là, en tout cas, c'était les hommes.
Ouais, c'est.
Commence pas à nous embrouiller.
Là, je crois que c'est son deuxième.
Plus jeune numéro 1 mondial, les plus jeunes numéro 1 mondiaux, WTA et ATP confondus.
Ouais. Mais je crois qu'ATP, il est 1. Hein.
Alors, ATP, il est 1, ouais. En effet, c'est le plus jeune. Juste derrière lui, tu as Hewitt, ouais. À 20 ans et 8 mois. Et troisième sur le podium, Safine, ouais, 20 ans et 9 mois.
Un mois c'est après, dingue, oui. Ça, la précocité de ces gars. Mais tu vois, par contre, si tu regardes le parcours derrière de Hewitt et de Safine, ben, j'espère pas que ça va lui arriver la même chose à Alcaraz, parce qu'ils ont fait une pointe très vite à 20 ans. Après, ils sont restés d'excellents joueurs, on est bien d'accord, mais ils n'ont pas arrêté numéro mondial par la suite, quasi.
Et oui, t'es resté un petit moment, j'ai plus la stat, mais...
Oui, il est resté jusqu'à 21, 22 ans. Ouais. Mais après, quand t'es redescendu, il n'est jamais revenu à ce niveau.
Chez les femmes, tu sais qui est la plus précoce
C'est pas Martina Hingis.
Ouais. T'as une idée de l'âge?
16, 17 ans, un truc comme ça.
16 ans et 6 mois.
Et t'imagines, 16 ans.
Parce qu'on a un running gag avec l'ami Fabrice, quand on était à Lausanne, et qui m'a présenté donc à l'agence Edge. On était en tribune et je regardais ma joueuse chouchoute Diane Paris, que j'adore.
Puis tu me disais, Fab, tu t'imagines?
J'ai dit, Fab, tu te rends compte? 19 ans, quelle vie. Elle a déjà fait le tour du monde plusieurs fois, elle est sur les plus grands cours. Et surtout, elle a un jeu magnifique, t'imagines cet avenir? Et elle n'a que 19 ans. Wow. Et donc là, Fab me le sort 10 fois par jour.
J'adore.
Et sachez qu'elle a 20 ans depuis cet été. Alors, deuxième sur le podium, Céleste, 17 ans.
Okay.
Graf, 18. Sharapova, 18. Et donc, Alcaraz, 18.
C'est quand même jeune. Hein.
C'est fou.
C'est fou. 18.
Les derniers plus jeunes vainqueurs en grand chelem hommes, en termes de date de naissance.
Ah, bah c'est là que c'est Michael Chang en premier. Non, alors, Becker.
Non, les derniers.
Ah, les derniers.
Donc le dernier, c'était Daniil, qui est né en 96. Juste avant, t'as une idée ou pas? Avant Daniil, le plus jeune. Dans l'ordre, hein, là, dans la
nouvelle
génération.
Ah, dans la nouvelle génération.
Ouais. C'était l'US Open aussi.
Mais c'est Del Potro ou c'est Chili.
Un autrichien, voyons.
Ah, Tim.
Tim, 93. Donc Tim, 1993.
Ah,
dans
Daniil,
le jeu. Non, 96. Mais...
Ok, dans ce sens, j'avais pas compris.
Et là, t'as un gap, et c'est Alcaraz 2003.
Ah ouais,
c'est-à-dire que de 96 à 2003, il n'y avait personne.
Ah, ça montre à quel point la génération Djoko machin a dominé encore les nouveaux qui sont arrivés. Hein.
Ouais.
La génération Tsitsipas, Medvedev, Zverev a été bien, bien dominée par la fin du top 4.
Ouais.
Tu te rappelles, hein?
Je me rappelle.
Il y a des matchs où Tsitsipas arrivait en demi de l'Open d'Australie, puis se prenait 3-7 face à Nadal ou face à Djoko. Puis tu dis.
Ça nous laisse pensif. Alors, dernière, l'ami Carlito est le quatrième joueur espagnol à devenir numéro un mondial. Est-ce que tu as les trois autres?
Numéro un?
Ouais.
Ouais. Trois autres, il y a Nadal, Moya, Ferrero.
Bravo.
Ferrero, ouais, non, c'est facile.
Merci Fab pour cette nouvelle série suite à l'US Open 2022.
Ça m'a fait plaisir.
On peut balancer les notes.
Et puis et mon petit carnet, hop, c'est terminé.
C'était pas si facile parce qu'il y a des joueuses partout là. Il y en a trois autour de nous, ça passe dans tous les sens.
Ouais.
Il y a un gars qui s'appelle Igor qui passe et qui prend un malin plaisir à nous faire des gags.
Ah, il y a Toursounov qui est passé là.
Il y a Toursounov aussi, je vais l'enregistrer avec lui. Bref, il y a des sollicitations
y a du,
un peu de toutes parts.
Il y a du bon monde.
Hein. Et
tu découvres le tour. Hein.
Oui, c'est ça.
Bon, moi je te dis ça, et puis ça fait qu'une année et demie que je suis sur le tour, c'est bon.
Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Allez découvrir ce fameux quiz dont je vous parle pour découvrir votre style de jeu grâce à la stat. En fait, on avait enregistré un contenu de 1h14 avec Fab. Il nous donnait 4 clés offertes, reprises dans son livre, mais un peu développées au format audio et vidéo, pour découvrir un peu des clés sur votre jeu grâce à la stat. Et là, on en a fait un quiz. Vous avez une dizaine de questions à répondre. Et en fonction de ça, on vous remasterise un coaching que vous recevez directement par mail dans les minutes qui suivent. Donc voilà, allez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis ça permet qu'on vous envoie ensuite la newsletter. Donc ça nous soutient d'une part. Fab, est-ce que tu as un mot de la fin peut-être?
Non.
Bon,
non, tout va bien.
N'a pas de mot de la fin d'autre part, donc on va pouvoir terminer là. Merci
allez,
à tous.
À bientôt.
Likez la vidéo et à la prochaine.
À la prochaine, mec.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.